Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires, la Banque Populaire et le groupe Agrica, sans qui rien ne serait possible, on les applaudit. Alors, qui sont nos tontons farmeurs de la semaine? Tout d'abord, Cédric Guyot, cofondateur de Agricolis. C'est quoi Agricolis, Cédric?
Agricolis, c'est des relais colis dans les fermes pour la distribution des colis lourds.
D'accord. Et Kevin Richard qui met des paillettes dans les yeux des agriculteurs, car avec sa plateforme Ferme Direct, il propose quoi, Kevin?
La Ferme Direct, c'est une plateforme de commercialisation des produits agricoles entre professionnels.
Et je rappelle que vous êtes tous deux des vaillants représentants de l'association Co-Farming, l'association qui est le partenaire de cette émission et qui aime bien bousculer les idées reçues sur l'agriculture. Alors, après un céréalier de la Marne la première semaine, un éleveur du Charolais la seconde, pour la troisième semaine, nous accueillons un vigneron du Bordelais, des Côtes de Blaye pour être précis, à savoir Alain Vidal de Château du Brau, un vigneron qui désherbe, à votre avis, avec quoi? Du glypho? Non. Un troupeau d'oies, mais est-ce que ça marche, Alain, les oies pour désherber?
Les oies sont très curieuses, ça marche plutôt l'hiver, voilà, on est en train de l'essayer.
Mais si Alain est là parmi nous, c'est parce que plusieurs dizaines de jours par an, il va à la rencontre de ses clients partout en France avec sa camionnette et il va vendre et puis il sait communiquer, il maîtrise l'art des réseaux sociaux et cela tombe bien car il a des pièces à verser à notre dossier de la semaine. Les agriculteurs sont-ils nuls en marketing? Mais juste avant, on va s'intéresser quand même à l'actu de la semaine. Et qu'est-ce qui t'a le plus énervé, Kevin, cette semaine?
Eh ben, ce qui m'a le plus énervé, moi, Jean-Paul, cette semaine, merci d'abord, c'est ce qui s'est passé autour de la Convention citoyenne sur le climat. J'ai un petit peu de mal à comprendre la plus-value qu'on va pouvoir apporter avec 150 personnes tirées au sort, alors que la plupart des solutions sont connues. Elles sont notamment dans les rapports que peuvent être notamment publiés par le GIEC. Et je ne vois pas en quoi on a apporté quelque chose de nouveau, si ce n'est un peu d'idéologie sur des choses qui étaient pourtant assez claires et scientifiquement posées.
Bon, et Cédric, c'est quoi ce qui t'a le plus énervé?
Ce n'était pas forcément cette semaine, mais c'est de manière générale. On a parlé énormément de circuits courts et de produits distribués dans les grandes surfaces, des produits français. Nous avions toutes les enseignes qui faisaient de la pub en disant « j'achète 100% français ». Elle n'avait pas trop le choix. Et maintenant, quelques mois après le déconfinement, on revient en arrière, on oublie les agriculteurs qui sont en proximité et on utilise les mêmes solutions qu'on avait avant.
Bon alors merci, n'oubliez pas que c'est une émission interactive. Interactive, ça veut dire que si vous êtes agriculteur, que vous nous écoutez cette émission, que vous avez envie de réagir, ou si vous n'êtes pas agriculteur et que vous n'aimez pas l'agriculture, vous pouvez aussi nous appeler à ce numéro.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Mais vous pouvez nous contacter aussi si vous êtes timide par Twitter. Il suffit juste de mettre le hashtag TTF comme Tonton Farmer, bien sûr. Alors, le dossier de la semaine. Les agriculteurs sont-ils nuls en marketing? Alors, on le sait. Il faut aller chercher de la valeur ajoutée, je dirais même du Grisby pour faire référence aux tontons flingueurs qui ont animé donc le fameux film du même nom. Et pour cela, il faut retrouver le sens du commerce, la vente direct comme le faisaient nos aïeux quand ils allaient vendre chaque semaine sur le carreau des marchés. Mais voilà, Alain Vidal, pensez-vous que dans les lycées agricoles, aujourd'hui, on forme à la technique, mais est-ce qu'on forme au commerce?
Alors aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a un déficit de ce point de vue-là. Moi-même, je n'ai pas du tout été formé au commerce, malheureusement. Ce sont des matières qui sont rentrées très tardivement dans l'agriculture. On a surtout été formé, enfin, pour moi, qui est fait l'ENITA, maintenant ça s'appelle Bordeaux Sciences Agro, à la technique, aux techniques. et le commerce, le marketing étaient très très mal vus parce que ce n'était pas des sciences dures, exactes. Voilà. Et donc heureusement que j'ai fait un troisième cycle à l'université ensuite, et surtout j'ai appris auprès de commerçants, mon épouse par exemple, et puis d'agriculteurs aussi, qui m'ont beaucoup appris sur le commerce parce qu'ils avaient beaucoup de bon sens. Voilà. Donc c'est sur le terrain que j'ai appris.
Bon, et on a aussi fait appel à un spécialiste, un économiste, donc qui a beaucoup travaillé sur ce sujet des circuits courts. Il s'agit de Jacques Mathé de l'université de Poitiers. Jacques, si vous m'entendez, est-ce que vous pensez que les agriculteurs se tournent aujourd'hui de plus en plus vers les circuits courts ?
Alors oui, bah, ils se tournent de plus en plus. Alors, je ne sais pas on voit quand même quelques tendances. La question, c'est de savoir aussi. Comment le consommateur réagit. Et en fait, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur l'effet de l'impact de la crise, hein, bien en fait, on s'aperçoit que le retour au monde d'avant revient, que le consommateur revient dans les grandes surfaces, et que les circuits courts, s'ils représentent à peu près 10% de la consommation, ils vont pas faire 90% du panier moyen. Mais s'ils en font 20% dans 10 ans, ça fera beaucoup d'argent, ça fera beaucoup de gens qui travaillent, parce que en circuit court, le gros avantage, c'est que la productivité du travail est relativement faible, et donc il faut beaucoup de bras. Donc ça a plein de vertus, le circuit court, au-delà même de faire vivre les agriculteurs.
Bon, on accueille aussi Alexandre Laillère, le directeur réseau Grand Compte de Régicom. Vous leur proposez des solutions à ces agriculteurs pour vendre grâce au digital. Alexandre, est-ce que vous estimez que les agriculteurs savent bien mettre en valeur leur production ?
Alors, je n'irais pas dire qu'ils sont nuls, bien au contraire, puisqu'on a pas mal de clients. Nous, moi, je pense à des producteurs mayennais qui vendent leur viande en direct, des viticulteurs dans la vallée du Rhône qui utilisent Waze ou Google pour aller vendre leurs flacons. Voilà, ils n'ont simplement pas le temps. Donc, l'enjeu, nous, on est là pour les accompagner et le faire à leur place. Donc, l'idée même qu'ils soient nuls, je suis pas d'accord, mais ils sont pas forcément à l'écoute quand on les appelle, quoi. Donc c'est lâchez-vous, faites-nous confiance et on est là pour parler de vous, pour parler de nos clients.
Bon, alors on aura
avec le biais d'offres simples et avec notre partenaire Banque Populaire, on a une offre qui s'appelle Direct et Proche. On a aujourd'hui partout en France des gens capables d'accompagner tous ces agriculteurs et ces viticulteurs.
Bon, Banque Populaire qui est notre partenaire, il faut le dire. Alors, les tontons, comme chaque semaine, on vous demande de bosser et de faire deux propositions qui mériteraient peut-être d'être intégrées dans une, pourquoi pas, une future loi. Et comme on ne fait pas les choses à moitié ici dans l'émission Les Tontons Farmeurs, vous allez pouvoir défendre vos idées devant le sénateur de la Meuse, Franck Menonville, et soyez convaincants les Tontons Farmeurs, parce qu'il a été président des JA de Lorraine, il est agriculteur, il ne faut pas lui raconter n'importe quoi. Est-ce que vous nous entendez, Franck Menonville ?
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bon, Franck, vous allez entendre les propositions. Kevin, tu dégaines ?
Eh bien, moi, ma première proposition, ce serait déjà de replacer sur ce qui s'est dit, c'est-à-dire de dire, effectivement, dans les exploitations, on a quand même peu d'agriculteurs qui maîtrisent leur commerce. La plupart d'entre eux ne connaissent pas bien leurs consommateurs. Ils ont du mal à se positionner comme des chefs d'entreprise et à se diversifier pour aller chercher des clients et vraiment cibler leur clientèle. Et la proposition que je fais, ce serait de dire qu'il serait utile d'avoir, comme on peut l'avoir dans les startups et dans l'innovation, des incubateurs pour venir accompagner les agriculteurs qui ont l'envie de se lancer dans des projets de diversification ou de commercialisation en leur apportant un cycle de formation au marketing, à la communication et au commerce qui leur permettent de formaliser leurs projets, de se mettre en ordre de bataille avant d'engager les investissements et de mettre en œuvre tout ce qui doit être fait pour aller vendre directement aux clients.
Si je comprends bien, vous faites le parallèle avec l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut créer un écosystème pour faire qu'il y ait une mutation vers l'innovation pour les startups. Ben, le monde agricole, il doit muter vers plus de commerce, et là vous dites qu'il faut créer aussi un écosystème. Franck, qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense que c'est une bonne idée. Moi, ce que je voudrais peut-être dire en avant-propos, c'est que l'agriculture évolue actuellement. Un des intervenants précédents parlait de la crise actuelle et du retour du consommateur vers les anciens réflexes. Je pense que c'est en partie vrai, mais néanmoins, il y a un mouvement de fond qui et un engouement de plus en plus important des consommateurs vers des produits de authentiques, mais aussi des produits de proximité. Et je crois que en fait, il faut aussi mettre en parallèle l'innovation dans tout cela, parce que finalement, je crois qu'il faut c'est pas forcément qu'une notion de vente directe, vente à la ferme, etc. Il faut surtout maintenant organiser l'offre, organiser le marché, parce que le consommateur, bien évidemment, il n'a pas forcément le temps d'aller voir trois producteurs pour constituer son... Donc c'est la notion de marché, c'est la notion peut-être de numérique, hein, d'organisation de plateforme numérique. Et effectivement, au travers la proposition d'incubateur, ça permet de faire naître et germer et d'accompagner la maturation, on va dire, d'un projet. Mais vous l'avez, enfin, je suis très rapide, mais vous avez dit que j'étais ancien président des jeunes agriculteurs, mais j'étais aussi président de SAFER. Et finalement, moi, j'ai beaucoup pu observer dans mon passé professionnel, eh bien, l'intérêt qu'avait la diversification et la vente directe pour permettre à des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, de s'installer avec peu de foncier, ce qu'ils n'auraient pas pu faire dans un cadre d'agriculture classique. Donc, il y a vraiment une complémentarité. Il y a des opportunités à saisir de marché, mais je crois que c'est pas non plus le grand soir. Hein. C'est un mouvement lent, progressif, et pour lequel il faut que les agriculteurs amènent une organisation et une approche marketing et innovante, quoi.
Le marketing, ça ne finit pas au commerce vers les consommateurs exclusivement. La majorité des marchés des agriculteurs, ils sont pas vers le consommateur, on est d'accord. Ils sont vers le professionnel. On peut être vendeur en direct et ne vendre qu'à des restaurateurs, qu'à des industriels, qu'à d'autres agriculteurs. On parle bien de prendre en main le commerce et d'être maître de l'exploitation et de ce qu'on en fait.
Moi, je voulais revenir un petit peu. Sur ce qui a été dit là. C'est qu'une des raisons pour lesquelles les agriculteurs ont perdu le sens du commerce, moi j'appelle ça, c'est un peu un dégât collatéral de la PAC. C'est-à-dire que quand la PAC s'est mise en place, il faut se souvenir que avant les années 50, les agriculteurs commerçaient. Il y avait des marchés partout en France, et c'était la seule action qu'ils avaient. Commercial, hein, il n'y avait pas les coopératives, donc on se débrouillait pour vendre les produits de la ferme. La PAC est arrivée, on a dit aux agriculteurs, ne vous occupez pas de commercer, produisez. Et donc, quand vous avez deux à trois générations d'agriculteurs qui ont très bien fait, ont très bien produit, avec les défauts qu'il y a eu de surproduction, mais ça a été bien dit par Alain Vidal, les écoles de formation se sont mises elles aussi dans cet état d'esprit-là, qui fait qu'on a oublié de la valorisation du produit, le débouché, c'est quoi ? Personne s'en occupait. Et donc ça, c'était un élément important de déconnexion. Et les circuits courts, en fait, ça permet à des agriculteurs qui ont quand même cela, c'est peut-être ceux qui ont le plus de sens du commerce, de revenir à des bases. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Jacques Mathé, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, est-ce que c'est les agriculteurs qui se sont... dégager un peu de cette fonction commerciale? Est-ce que c'est les structures qu'ils ont créées qui se sont accaparées cette fonction commerciale? Pas tabou, c'est quoi ce qui s'est passé?
Mais c'est bien ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, la fonction, la loi, la PAC, ça a été produire. Et donc, c'est bien d'autres outils dans les filières, coopératives par exemple, les négociants, qui se sont effectivement positionnés sur le commerce. Et alors en plus le défaut qu'ils ont eu, ces structures-là, c'est que ils ont commercé des produits, des matières premières et peu de valeur, peu de produits élaborés. Les produits élaborés, en fait, ils ont été faits dans un deuxième stade par des industries qu'on appelle agroalimentaires, qui ont été souvent des industries privées et qui elles ont capté une grosse partie de la marge.
Et c'est vrai que les agriculteurs ont laissé partir un peu cette fonction parce que c'était peut-être plus confortable de produire que d'aller au contact.
Et justement, alors un des problèmes avec les circuits courts, en fait, ils redécouvrent cette fonction commerciale. Ils redécouvrent ce que c'est que le marketing. Là aussi, alors
ils sont très bons.
Oui, et dans le marketing, attention, hein, y a quand même une définition du marketing. Hein. On dit les 4 P. Hein, donc, quand on fait du marketing, ça veut dire qu'on s'occupe du prix du produit, dans quelle gamme je suis, on s'occupe du produit en lui-même, ben, c'est quoi les composantes de ce que j'ai à offrir, c'est quoi ses caractéristiques, on s'occupe de savoir ben, où est-ce que je vais le vendre, c'est quoi ma zone de marché, quoi ma zone de chalandise, et le quatrième P, c'est la promotion. Ouais, mais... Alors, souvent, on réduit un peu le marketing simplement à l'aspect promotion.
Ouais, mais...
Je pense qu'il y a ces quatre dimensions qu'il faut pas oublier. Et ça revient sur ce que disait notre ami sénateur. C'est vrai que pour les agriculteurs, il y a des besoins de compétences à acquérir, mais nouvelles.
On part
et c'est
de
peut-être
loin.
Là qu'il y a des accompagnements à faire.
On part de loin quand on voit qu'un producteur…
S'il vous plaît, je peux rajouter un cinquième P à ce que vous venez de dire.
Allez-y.
C'est la publicité. Ah, on peut avoir les plus beaux produits, les plus belles promotions. Si personne ne le sait, si vous ne le communiquez à personne… Vous ne vendrez jamais. Pour,
oui, excusez-moi, promotion, c'est le mot, c'est le même, c'est la
c'est
terme,
la même chose.
Les 4 P. Oui, c'est la promotion, c'est la pub. Hein.
Et
oui,
on part de loin, c'est vertigineux quand on sait qu'un producteur laitier aujourd'hui ne fait pas ses factures et que c'est son client qui lui facture. Mmh. Ça pose quand même un sacré problème.
Oui. Ah ben oui. La déconnexion a été totale.
Moi, je voudrais intervenir et saluer au passage les structures agricoles qui, jusqu'à 15-20 ans, n'étaient pas du tout versées dans le domaine. Je vois ici, par exemple, la Chambre d'agriculture, hein, structure très, très classique en agriculture. Eh bien, ici, aujourd'hui, en Gironde, ils sont en train de faire une mutation et ils accompagnent de plus en plus les agriculteurs vers le commerce. Et ça, je trouve que c'est rudement innovant et extrêmement nécessaire, enfin, en tout cas, pour faire cette mutation qui est absolument fondamentale.
Alors, l'idée de Kevin de créer un... Oui, l'idée de Kevin
de... Je peux me permettre, Jean-Paul, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, il ne faut quand même pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain en parlant des coopératives, parce que on a quand même un système qui est vertueux, qui appartient aux agriculteurs et qui leur permet de grouper leur commerce.
Ouais,
donc on ne veut pas non plus permettre de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Et peut-être qu'il faut qu'elles évoluent aussi.
Il faut quand même prendre en compte cette organisation qui est nécessaire aussi pour aller sur certains marchés et notamment ceux de la grande distribution.
Alors, l'idée de Kevin de créer un incubateur, s'il vous plaît.
Il ne faut pas opposer les deux systèmes.
Voilà, il ne faut pas opposer.
Bien sûr, ils sont complémentaires. Les deux systèmes
sont
complémentaires.
Voilà, il y a des marchés.
Nous, on est vignerons indépendants. Et à côté de chez nous, il y a la plus grosse coopérative de France, les vignerons de Tuquiac. Nous, c'est Château du Brône, un petit domaine de 28 hectares. Eh bien, je peux vous dire que les viticulteurs de cette coopérative, de plus en plus, ils vont dans les supermarchés. Il y a eu la Saint-Vincent au mois de janvier dans les supermarchés. Voilà. Nous, on y va aussi. Et ça c'est formidable, ça. Que des viticulteurs coopérateurs puissent sortir de chez eux, mettre le béret, faire déguster, rencontrer le client, bah, c'est super, ça.
Hop, les tontons farmeurs, l'idée de Kevin, là, il faut qu'on avance, l'idée de Kevin, justement, de créer un incubateur pour pouvoir permettre aux agriculteurs de passer ce cap, d'apprendre, de se former, d'échanger, de voir aussi peut-être des complétudes entre différents agriculteurs. Bonne, mauvaise idée. Franck, est-ce que vous seriez prêt à aider, justement, l'association à porter un tel projet?
Non, je pense que c'est une bonne idée. Et pour faire le parallèle avec ce qui avait été évoqué sur... l'enseignement, ça pourrait être aussi une démarche peut-être dans l'enseignement agricole de créer même à l'échelle d'un lycée ou d'une école d'ingénieurs ce style aussi peut-être d'incubateur pour familiariser les étudiants, les futurs agriculteurs à des projets innovants et notamment tournés vers le marché, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est une très excellente idée. Hein.
Adjugé, vendu, Cédric, c'est quoi ton idée?
Eh ben, en complément avec ces différentes solutions d'incubation, moi, ce que j'avais imaginé, c'est aujourd'hui, certaines collectivités locales sont en train d'augmenter la promotion des produits, de ce qui est fabriqué en local à proximité par les agriculteurs. Comme par exemple Faveur en Or sur les Hauts-de-France, moi sur le Nord, mais après Terre de Source en Bretagne. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux marchés. Il y a le marché du consommateur, donc avec des circuits courts, ou le marché via la grande distribution. Moi, je pense que ce qui serait important, c'est d'accélérer le mouvement pour mettre en valeur le savoir-faire français ou le savoir-faire local, de manière à ce que le consommateur comprenne que quand il achète ce produit, ça vient vraiment à proximité et on sait d'où ça vient, comment ça a été fait, vraiment accélérer cette mutation. par l'intermédiaire des communautés de communes, par l'intermédiaire des départements. Donc, c'est, en résumé, c'est d'accélérer le mouvement pour faire de la promotion sur le savoir-faire des agriculteurs et de l'agriculture française.
Franck, comment vous réagissez ?
Écoutez, moi je pense que c'est là aussi une bonne idée. Je pense qu'il faut promouvoir. On a un débat ce soir d'ailleurs qui est initié au Sénat sur l'alimentation durable. Et d'ailleurs, j'interroge le ministre sur les moyens de faciliter l'accès des collectivités aux productions locales et notamment en simplifiant les règles de marché public. Et je pense que faut qu'on essaye à la fois de simplifier et d'organiser, quoi.
Donc, idée que vous retenez, il y a moyen d'aller plus loin ou pas, d'étendre un peu cet article de...
Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, mais il faut aussi, je pense, vraiment entraîner une dynamique agricole également, parce que finalement, je crois que tout est interdépendant. Quand les collectivités font preuve d'un volontarisme, il y a un tissu et un écosystème agricole qui s'organise pour créer. Mais quelquefois, c'est aussi l'écosystème agricole qui permet d'inciter le local à s'organiser, à être plus ambitieux en la matière. Mais ce que je voudrais peut-être dire, parce que je n'ai pas forcément, quand on évoquait les coopératives, etc., moi je pense que véritablement l'enjeu de du circuit court ou de l'approvisionnement local, en fait, c'est surtout de permettre aux agriculteurs d'optimiser, on va dire, le marché qui est à leur proximité, quoi, et d'en tirer de la valeur ajoutée. Alors bien évidemment, ça ne pourra pas faire une agriculture française en totalité. On peut pas valoriser localement l'ensemble des productions, puis toutes les productions se consomment pas directement. Mais c'est là que je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment par un de nos collègues sur les coopératives. Je crois qu'aujourd'hui il faut du pragmatisme, faut aussi de l'innovation, faut aussi de...
Notre ami sénateur est donc d'accord pour porter ces deux idées. Alors, je vais vous passer un petit reportage, parce que quand on a des céréaliers, souvent, ils me disent « Ouais, mais vous, c'est... » Enfin, la vente directe, tout ça, c'est bien pour les vignerons, c'est bien pour différents acteurs. Mais en revanche, pour quelqu'un qui est perdu au fin fond de la Picardie, perdu au fin fond des champs, du Loiret, par exemple, c'est pas évident. Si, justement, j'ai trouvé un agriculteur dans... le Loiret, qui lui a poussé à fond le marketing. Il s'agit de Paul-Henri Leluc. Vous allez voir, il fait de la vodka top, de la vodka à partir de pommes de terre. On l'écoute.
Donc nous, on a décidé de monter une distillerie parce qu'à un moment de notre vie, arrivé à 35 ans, on avait ressenti le besoin de monter un projet. Et dans ce projet, on voulait allier notre passion des spiritueux, mettre en avant notre expertise agricole, c'est-à-dire la technicité qu'on a dans le fait de produire des matières premières et notamment de la pomme de terre, d'où la vodka de pomme de terre. Mettre en avant notre lieu de vie, puisqu'il est indissociable finalement, on travaille sur le lieu d'habitation. Et un petit peu comme de ce qui se faisait dans le Calvados ou dans le Cognac. Et aussi de travailler en couple et que ça puisse être rémunérateur pour ma femme et moi. Pourquoi on a monté une distillerie ? C'est qu'on est assez exigeant avec nous-mêmes. Et un petit peu avec ceux qui nous entourent. Donc, du coup, on a décidé de transformer cette passion pour le produit bien fait et bien fini à travers notre communication également. Donc, c'est vrai qu'on a fait un marketing autour d'une vodka premium. L'idée, c'était que l'image qu'on véhicule soit à notre image, l'image du producteur et à l'image de notre état d'esprit. Et les canaux de distribution qu'on avait choisi également d'intégrer, puisque dans le milieu des spiritueux, on va plutôt travailler en direct avec des cavistes, des épiceries fines et aussi des hôtels-restaurants. Et donc, du coup, il faut qu'on ait un marketing aussi qui soit adapté à notre cible.
Ça montre que c'est possible. On peut faire de la pomme de terre, on peut la transformer en vodka, faire du marketing et bien vendre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça nécessite, comme on l'a entendu, de remettre en cause ses certitudes, de bien regarder le marché, d'être capable de se dire qu'on va investir dans la commercialisation sur l'exploitation et pas forcément dans la mécanisation. On va faire des choix sur l'entreprise pour dire mon objectif, c'est de valoriser mieux mon produit et de mieux m'en sortir sur la commercialisation du produit. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait en investissant et en regardant, en s'informant et en se faisant souvent accompagner.
Vous envoyez souvent des cas comme ça ?
Honnêtement, pas tous les jours. Nous, on travaille avec des agriculteurs qui se mettent à commercialiser leurs produits, des gens qui vont jusqu'au bout de la démarche à transformer le produit, à maîtriser l'ensemble de leur marketing et à aller vraiment jusqu'au client. C'est quand même pas ce qu'on voit à tous les coins de rue.
De mon côté, on en voit aussi de plus en plus, des gens qui commencent à produire eux-mêmes leur bière, à produire leur pâte, en partant du champ, de la graine du champ, et aller faire leur farine et jusqu'aux pâtes. Moi, je sais que c'est un mouvement de fond, mais qui est faible.
C'est des petites quantités.
C'est des petits matériels.
Ça illustre le sujet complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour un économiste, moi, je vis une époque formidable. Je suis dans un secteur où j'ai pas de problème de déboucher. J'ai un problème d'offre. Ça, c'est quand même, il y a peu de secteurs qui ont ça. Donc ça, c'est une vraie chance, C'est-à-dire que la question, elle est dans les mains des producteurs. C'est eux d'avoir des idées. Et de toute façon, l'idée, elle va trouver un succès sur le marché parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Par contre, pour trouver un succès, il y a des règles. Le marketing, ça en fait. Il y a des outils. Il y a des compétences à mettre en œuvre. Il y a tout un arsenal qui va faire qu'on va réussir. Alors ça peut être un autre sujet parce que ce que j'observe, moi, c'est que effectivement, l'exemple qu'on a eu, que je connais un petit peu, ce n'est pas des exemples qu'on voit d'une manière effectivement générale. C'est d'ailleurs le fait que dans des projets de circuit court, on a encore trop peu de gens qui créent de la valeur. On crée de l'activité, mais on crée pas de la valeur. Alors ça, c'est un peu embêtant.
Ça signifie quoi concrètement ?
Notamment des gens qui sont comment ?
Concrètement, ça signifie quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, je crée de l'activité, c'est-à-dire je travaille, je produis de la salade, je vends des salades, je vends des légumes. Puis quand je fais le total au bout de la chaîne, j'ai bossé comme un fou pendant tout l'été, et puis il me reste pas grand-chose. Et donc, souvent parce que j'ai eu de la perte, parce que il y a eu tout un tas de petits phénomènes parallèles qui ont perturbé mon activité. Et moi, ce que je défends beaucoup, c'est que la création de valeur, elle vient dans la transformation du produit. Plus on élabore le produit, plus on transforme. C'est bien, ça a été le succès de l'agroalimentaire. C'est d'apporter, et c'est ce que demande le consommateur. Il veut de plus en plus des produits qui sont prêts à manger, prêts à consommer. Et donc là, c'est devient plus compliqué à l'échelle d'une exploitation. Et j'en profite pour qu'il y ait un élu ici, un sénateur. Un des sujets pour les collectivités, c'est de pouvoir aider les producteurs, les groupes de producteurs, à avoir à l'échelle de petites régions des outils de transformation, des petites légumeries, des petits outils de transpo avec un certain nombre de matériaux de cuisine qu'on va pouvoir partager. Et chaque fois que je vois ces outils-là, ça apporte tout de suite des idées à des gens qui ont envie de transformer des produits.
Franck,
là, on crée de la valeur.
Franck, vous pouvez en parler au ministre.
On peut rajouter les abattoirs. Les abattoirs de proximité dans cette liste.
Évidemment.
Je voudrais ajouter une dimension à ce qu'a dit Jacques Mahé sur la réussite. Qu'est-ce qui fait la réussite ? Je voudrais ajouter la dimension humaine qui a été assez peu évoquée jusqu'à présent.
Complètement.
Ici, moi, je l'ai vu dans les Côtes de Blaye, on est arrivé il y a 22 ans, et il y avait pas mal de producteurs à qui je parlais qui n'avaient pas la fierté, qui n'avaient pas la fierté, les yeux qui pétillaient quand ils parlaient de leurs produits. Ils faisaient toujours un complexe d'infériorité par rapport au Saint-Émilion. 20 ans après, ou 22 ans après, ici dans les Côtes-de-Blaye en tout cas, le nombre de jeunes qui se sont installés, et quand on parle avec les uns et les autres, parce qu'on est beaucoup à sortir, à faire de la promo, à aller sur Internet, sur Facebook, etc., etc., eh bien, ça c'est très difficile à traduire dans une loi, hein, monsieur le sénateur. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un entrepreneur, un viticulteur, quelqu'un un jour va réaliser qu'il a un produit, qu'il a de l'or dans les mains, qu'il a de l'or sous les pieds, qu'est-ce qu'il va faire un jour que cet homme-là, cette femme-là, va se mettre à bosser intelligemment, il va se former, il va prendre les moyens nécessaires pour avancer, il va avoir cette fierté dans les yeux. Voilà. Et nous, aux vignerons indépendants, moi j'avoue que je suis très très heureux d'être un monde des vignerons indépendants.
Il faut être clair que c'est le contact direct avec le consommateur, voilà, qui crée cette synergie.
Exactement. Oui, mais il n'y a pas que. C'est entre nous, aux vignerons indépendants, on s'entraide. On ne se jalouse pas, parce qu'il y a ça aussi dans le monde agricole. Il faut en parler.
C'est un réseau, quoi.
Jean-Paul a dit pas de langue de bois ici, hein, d'accord. La jalousie, on se regarde. Il y a des viticulteurs. T'as vendu combien? Oh, un peu comme l'an dernier. Bon, et puis le copain d'à côté, il te dit qu'il a vendu. Ben j'ai vendu 612 bouteilles, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Et là, on est dans la vraie vie, quoi. Et là, on avance, quoi, voilà. Et cette dimension humaine, elle me paraît capitale. Qu'est-ce qui va redonner la fierté, le goût, la motivation, la pêche pour avancer, voilà. Alors, le millefeuille administratif, là, monsieur le sénateur, il y a vraiment du boulot. Moi, je peux vous en faire une tartine, si vous voulez. Hein. Le gros manout administratif, là, il faut vraiment lui donner un coup. Hein. Ça, c'est vraiment très pesant. Dans un petit domaine comme nous, de 28 hectares, si vous voyez le temps que je passe à l'administratif, c'est épouvantable. Mmh. Quand on fait l'administratif, on n'est pas sur le marché. Voilà.
Et
ensuite, redonner du baume au cœur aux agriculteurs. Voilà, il faut arrêter ce batching là. Il faut arrêter, quoi. Redonner du baume au cœur aux agriculteurs.
Et Alexandre, voilà. Vous dites d'ailleurs que la profession agricole, c'est mal se vendre aussi. C'est ça l'agribashing, c'est-à-dire que les agriculteurs se vendent mal eux, de façon globale.
Ben complètement, parce que quand je vous entends se jalouser entre eux, etc., eh ben écoutez, moi, si je suis fier de ce que je fais, si j'ai une histoire à raconter parce que je suis agriculteur de père en fils, vigneron, par exemple, j'entends notre ami de Blaye, là, ben je doute pas un seul instant que sur son Facebook, ça transpire pas la passion, que ses bouteilles, elles transpirent pas la passion, et elles donnent envie d'être achetées. Ben le tout, c'est de pouvoir communiquer tout ça. Je veux dire, vous avez des solutions qui sont accessibles, qui sont pas super chères, ben le jeu, c'est d'en parler, c'est tout.
Bon, alors vous allez voir. Exactement. Que hop, là on est en train de faire un monde un peu super, la vente directe, etc. Mais je sais qu'Alain, des fois, tu en as marre des consommateurs, tu en as marre d'aller faire le tour de France avec les salons, et ça tu le dis pas, les salons qui sont trop chers souvent d'ailleurs.
Parce que je suis feignant et que je préfère aller boire un coup sur les salons avec les copains.
Et vous allez voir.
C'est ma femme qui vend. Mais non, mais c'est super. Pour nous, les salons, c'est vrai que c'est crevant. Tu restes 10 heures sur un stand. Mais bon, on a la prétention de penser qu'on fait du bon vin parce que les clients reviennent. Bon, mais c'est super quand tu vois les gens qui reviennent et qui disent, écoutez, on a bu votre vin à la communion avec les petits, en famille. Voilà, on voudrait. C'est du bonheur, à l'état pur. Enfin, voilà. Et ça nous donne une pêche quand on revient, vous ne pouvez pas savoir, quoi. Et même après, pour travailler, pour améliorer le produit, pour améliorer le process et tout ça, moi, je m'appuie sur ce qu'ont dit les clients, quoi.
Ouais.
Mais j'en ai eu encore cet après-midi, voilà.
Les agriculteurs qui nous écoutent, certains se disent, ouais, mais tout ça, c'est un monde idéal. En pratique, c'est vrai qu'il faut peut-être se concentrer sur son métier. Et moi, j'ai rencontré.
Ah ben, chef, bosse, hein. Il faut se lever tout le matin et se coucher tard le soir, hein.
Ouais. Et moi, j'ai rencontré un viticulteur du Var, un département que tu connais bien, Alain. C'est un jeune. Voilà. Il a la pêche. Et lui, ce qu'il dit, ben, on va l'écouter.
Je pense que ça dépend un peu des gens, sans doute, de la passion, de l'envie de ce qu'on a envie de faire dans le métier. Moi, pour ma part, je souhaite m'arrêter et essayer de faire de mon mieux dans la culture du raisin. Et je laisse le soin à la cave coopérative de mon village de se charger de faire du vin, parce que je trouve déjà qu'il est très bon. Et ça me suffit, pas forcément essayer de gratter partout, tout ce qu'on peut, tout le temps. Je pense que déjà être content, faire ce qu'on aime, que ce soit du vin, de la vigne, les deux, les trois, il faut juste être heureux de ce qu'on fait. Moi, j'ai envie d'atteindre un objectif optimal pour la vigne avant d'essayer de me pencher sur autre chose. Donc on verra la suite, si je fais assez bien mon travail, on partira peut-être sur autre chose pour l'instant.
Sean Prandini, c'est un jeune viticulteur, il a envie de prendre du temps. il a envie de prendre du temps de vivre et de pas se crever non plus tout le temps au boulot.
Non mais Jean-Paul, d'accord, mais il a le mérite, cet homme-là, d'être honnête. Ça c'est formidable, il faut souligner cette qualité-là. Bon, très bien. Mais il faut aussi qu'il reconnaisse, notre brave collègue là, qu'il reconnaisse, il faudrait quand même qu'il remercie son président ou son conseil d'administration de la coopérative de se retrousser les manches pour aller vendre son vin. Parce que si on réagit tous comme ça, et ça c'est le grand drame du monde agricole, ah ben nous on sait produire, on sait pas vendre. Est-ce que tu connais une activité dans le monde qui produit, par exemple, demain matin je produis des stylos, mais le commerce c'est pas mon problème. Ça tient pas debout une seconde, quoi. Alors, ce brave gars, il a reçu l'exploitation de son père et de son grand-père, il a reçu un outil de production, bon, très bien, il a envie de prendre du bon temps, et on a tous envie de prendre du bon temps, mais est-ce qu'il s'est posé la question une seconde, qu'est-ce qui allait créer la valeur ajoutée? Monsieur Jacques Mathé en a parlé avant, quoi. D'accord. Donc, on peut pas raisonner comme ça, enfin, je veux dire, sérieusement, quoi. Il faut quand même se prendre en main et se dire, oui. Je produis, pourquoi? Pour qui? Enfin, bon.
Ouais, mais
enfin, finalement, c'est pas qu'il ne se prend pas en main, c'est qu'il délègue cette partie-là à la coopérative, qu'il le fait pour lui. Après,
mais qu'il dise, c'est quand même, voilà, qu'il le reconnaisse.
Il doit abandonner une partie de sa valeur ajoutée aussi. Mais ce que je voulais dire, peut-être, c'est que, en fait, les systèmes sont aussi un peu complémentaires, parce que, bon, je ne suis pas un grand spécialiste du marché du vin, mais finalement, les viticulteurs indépendants vendent à la restauration, vendent sur le marché national, dans différents circuits, et j'en suis d'ailleurs un parfait client. Mais à l'inverse, des coopératives et quelque part des négoces, etc., eux ont peut-être vocation à aller plutôt sur des marchés peut-être un peu de grande distribution, et puis finalement aussi à l'export. Hein. Donc en fin de compte, c'est une complémentarité économique, mais c'est vrai que après je crois qu'il faut trouver le système qui est adapté à chaque exploitation, chaque entrepreneur, et en tout cas parce que bon, être agriculteur, viticulteur, c'était effectivement avoir une démarche entrepreneuriale, quoi.
Mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience.
Oui,
il faut
en avoir
dire.
Conscience. Hein, mais effectivement, la coopérative fait ce que ce viticulteur, effectivement, ne souhaite pas faire, et quelque part, il...
Ouais, puis il faut accepter que les nouvelles générations ont peut-être pas les mêmes attentes que les anciennes. Hein. Ils veulent pas avoir des hectares en plus, ils veulent pas produire plus. Peut-être qu'ils ont juste envie de vivre, voilà, de façon heureuse avec le minimum de boulot.
Bon, je pense que la valeur ajoutée n'est pas forcément la même non plus, hein, voilà.
Alain, si tu...
S'il y arrive, s'il est heureux, tant mieux. Hein.
Bon.
Kevin, le jour où la coopérative, elle dévisse, par contre, il fait quoi, ce jeune?
Ah, il est entièrement dépendant, effectivement, de
son
outil de vente.
Il va avoir un pépin, hein.
Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est tendance. Et je vais vous en donner un exemple. Est-ce que vous connaissez les Crazy Farmers and the Clôture Électrique? C'est un jeu de plateau, vous savez, un jeu de société qui va sortir. D'ailleurs, il y a un crowdfunding pour l'aider à sortir. Et il faut vraiment aller vous taper sur Kickstarter, donc Crazy Farmer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, ils ont choisi le côté agriculteur comme marque. Ça veut dire que c'est une véritable marque et que peut-être le monde agricole n'a pas assez conscience. On va écouter l'interview du responsable de l'édition.
J'aimerais bien que ce soit tendance et mainstream. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas le cas du tout. Et justement, notre démarche, c'est de porter au public l'attention sur des sujets justement qu'on trouve un tout petit peu en déshérence. Et typiquement, on a l'impression que les agriculteurs, tout le monde les exploite, tout le monde les utilise, mais ils ont moins en moins de moyens pour vivre. Et ça, l'attention du public, elle n'est pas tellement portée dessus. Donc, on a essayé avec nos humbles moyens de faire un jeu qui met en avant les agriculteurs, un jeu qui est accessible et qui reste quand même très rigolo, où les agriculteurs cherchent de péter du plomb pour survivre et d'inventer un sport complètement fantasque qui mêle l'agriculture et les monster truckers. Et nous, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de porter le regard sur la condition des agriculteurs, à nouveau avec nos humbles moyens. Est-ce que c'est mainstream? Je ne sais pas.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que cet éditeur, qui s'appelle Pierre-Yves Bonnet, a choisi quand même ce nom, pas au hasard. Enfin, il y avait vraiment derrière une valeur forte liée à l'agriculture. Qui valorise aujourd'hui cette image de l'agriculture, à votre avis, le mieux ? L'agroalimentaire, les agriculteurs, le monde agricole, nos responsables syndicaux ?
Les distributeurs, notamment à l'étranger, qui vendent très bien la marque France. Avec des marges tout à fait correctes. Quand je dis les distributeurs, c'est pas forcément les 4 ou 5 grandes enseignes auxquelles on parle, mais bien les distributeurs au sens large de produits français à l'étranger.
Bon,
mais il... et moi qui accompagne un certain nombre d'acteurs à l'export, de plus en plus de ces acteurs-là, petits acteurs de l'agroalimentaire français. Ou gens en circuit court, hein, et qui essayent de vendre à l'export, ils trouvent que souvent ils sont mieux reçus à l'export et que leurs produits sont bien mieux mis en valeur que chez nous. Donc c'est vrai que c'est des questions à se poser parfois.
Il est 19h40, c'est la fin de l'émission. Puis Franck, je crois que vous allez interpeller le ministre là tout à l'heure, donc il faut que vous y alliez, n'oubliez pas. Les tontons farmeurs, merci beaucoup d'avoir été présents dans cette émission. Alors voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Je tenais à vous remercier bien sûr, à vous, nos invités, mais aussi l'association CoFarming. Et je remercie aussi vous, les auditeurs qui nous écoutez sur notre chaîne YouTube Power Boost, sans oublier nos partenaires, la Banque Populaire et le groupe Agrica. Et effectivement, c'est grâce à eux que cette émission existe. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi soir donc en direct pour cette émission. Et la semaine prochaine, le thème de l'émission, ça sera hashtag balance ta ferraille. On va parler du suréquipement et j'espère que vous serez nombreux pour nous écouter. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à venir nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis en direct la semaine prochaine.